RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, RFI vous propose une rediffusion de grand reportage aujourd'hui consacré à la lutte contre le sida. Les 5 prochaines années représentent une fragile fenêtre d'opportunité pour passer à la vitesse supérieure, accélérer fermement la riposte mondiale contre le VIH. C'est ce que déclare le directeur exécutif de l'ONU Sida. Et cette année, 2016, c'est aussi l'anniversaire d'une révolution dans les traitements efficaces contre le VIH. C'est en effet en 1996 qu'apparaissait une nouvelle génération de traitements, les trithérapies. Michel Diaz a rencontré des survivants, comme ils s'appellent eux-mêmes, de cette époque. Ils témoignent.
Joël Vermont, le sida, en fin de compte, je l'ai rencontré relativement tôt. C'était en 92, donc à un stade déjà qui était relativement avancé. C'est vrai que nous sommes quelques-uns, oui, survivants du sida. Quelque part en nous, on a une espèce de carapace supplémentaire qui nous dit « continue à te battre parce que la fin de ta vie n'est plus à brève échéance, mais elle est maintenant le plus loin possible. » Enfin, du moins, j'espère. Je me rappelle toujours de cette image d'un médecin qui m'avait dit « vous ne verrez jamais l'an 2000 ». Et ça m'avait marqué. J'ai juste envie de lui dire que je suis toujours vivant et on est encore plus nombreux à être vivants.
Bonjour.
Bonjour, je m'appelle Jean-Marc, je suis séropositif depuis 1984, à une époque où il n'y avait pas vraiment de traitement, donc il fallait essayer de trouver des solutions. On prenait des vitamines, des antioxydants, des choses comme ça. Puis voilà, nous voici 20 ans après, des choses ont évolué, mais tout n'est pas réglé.
Jean-Marc fait partie des premiers qui se sont rendus à New York dès 1996 pour s'y approvisionner non sans difficulté. En effet, ces nouveaux traitements n'étaient pas encore disponibles sur le marché français. Une réserve faible en provenance d'outre-Atlantique et une délivrance recommandée au compte-gouttes en France face à une urgence vitale de personnes séropositives qui ont conduit une équipe, l'association Action Traitement, à se mobiliser pour rendre ces trithérapies disponibles au plus grand nombre.
Donc il y avait eu une décision du Conseil national du sida qui avait préconisé donc un tirage au sort pour les personnes en situation d'urgence par rapport à ça, mais c'était un petit peu, disons, arbitraire. C'est pour ça que les associations se sont mobilisées pour qu'on délivre le médicament pour tous. Et grâce à cette opération, ça a été l'arrivée de cette trithérapie qui était au départ annoncée un petit peu comme plutôt une éradication du virus par certains spécialistes en France, ce qui n'a pas été le cas, mais ça a été quand même ce qui a sauvé la vie de la majorité des séropositifs comme moi qui vivent depuis 30 ans avec le VIH. Donc la trithérapie a permis vraiment de sauver sa peau.
Et parmi les accompagnants, un jeune médecin à l'époque, le docteur Xavier Copin, spécialiste du VIH.
Mais au départ, on ne savait pas trop finalement. C'était une nouvelle stratégie thérapeutique. On était au bithérapie, on nous dit les tri, on nous dit que les résultats vont être étonnants. Je pense que le choc, c'était surtout finalement avec les premiers patients qui ont reçu cette prithérapie. Quand j'ai vu des patients qui étaient effectivement borderline, qui avaient déjà quasiment un pied dans la tombe et qui étaient ressuscités en quelques mois. C'est-à-dire qu'en quelques mois, je voyais des kaposis disparaître, des rétinis ACMV se guérir et des patients aller beaucoup mieux. Vous les voyez tout à coup reprendre du poil de la bête, regrossir, remarcher. Et ça, c'est un vrai miracle au départ.
Le sida, une maladie qui crée des injustices entre les personnes, qu'elles viennent des pays du Nord ou du Sud, mais aussi de la capitale d'un pays ou de ses régions éloignées. Morgane, 34 ans, est séropositive depuis l'âge de 17 ans. Elle a eu 4 enfants séronégatifs et vit en couple. Portée par sa propre histoire, avec une prise en charge particulière et difficile au moment de ses premières grossesses, à cause notamment de la méconnaissance de la maladie de la part du personnel de santé dans sa région, elle choisit de développer une antenne bretonne du Comité des familles. Une association créée par des personnes concernées par le VIH à La Courneuve, en région parisienne. Il s'agit donc d'une première du genre en province, à Saint-Brieuc.
S'informer, échanger dans le respect des différences et de la confidentialité, des moments de convivialité et de partage. Vivre mieux, être plus heureux pour vous, pour eux, avec nous, tous ensemble, on peut y arriver, voilà, c'est...
Et ça vous a manqué, ça, au début ?
Moi, oui, complètement. Pendant des années, je suis restée seule longtemps. Donc, le besoin, je le ressentais. Et donc, il a fallu vraiment faire quelque chose pour ce département qui était, depuis quelques années, en fait, désertique. Sur le point de vue associatif, sur le sujet du VIH.
C'est donc chaque semaine que des habitants de la région, patients et accompagnants, se rencontrent pour discuter et s'entraider. Parmi eux, Yann, 50 ans, venu témoigner de Paris. Elisabeth, 48 ans, nouvellement infectée, exilée du continent africain, et la pétillante Valérie, 55 ans, contaminée à l'adolescence avant l'arrivée des trithérapies.
Oui, c'était avant. C'était à l'époque où, quand on disait pas VIH, on disait sida, parce qu'effectivement, dès qu'on était malade, on l'était vraiment, et les traitements ne fonctionnaient pas, ou il y en avait très peu. Donc du coup, tous les premiers contaminés mouraient très très vite, et sur des villes comme Rennes où je grandissais, j'ai vu effectivement des hécatombes arriver, et c'était sida, sida, sida. Donc quand je l'ai appris, moi aussi j'ai cru que effectivement c'est sans lendemain, et en fait si, des lendemains il y en a eu, et beaucoup.
Comment ça s'est passé pour que vous ayez ces lendemains, qu'on puisse parler ensemble aujourd'hui?
Des prises en charge, hein, bien sûr, au niveau des traitements très lourds, hein. Donc au début, une première rébellion pour moi, donc j'ai dit stop à ce traitement qui était trop lourd, où je me suis vue tomber vraiment, l'AZT, sacrée cochonnerie. Et le fait d'être une femme aussi, petit gabarit, donc du coup des charges beaucoup trop lourdes par rapport aux hommes. Et après j'ai changé, j'ai trouvé un autre médecin qui m'a suivie après pendant plus de 20 ans, et au fur et à mesure ça a été mieux, avec bien sûr différents problèmes liés aux trithérapies, comme la lipodystrophie, la matière grasse qui se déplace, donc plus les joues creuses, l'estomac qui gonfle, les cuisses toutes maigres et plus de fesses. Tout à fait charmant quand on est une jeune femme et que on aime, comme tout le monde, plaire, et qu'on aime se regarder dans la glace et qu'on aimerait bien que ça soit moi, quoi. Je pense qu'au début, comme beaucoup, en fait, on lâchait prise parce qu'on disait qu'on avait le sida, on allait mourir, et en fait, non. Donc je pense que j'ai bien fait, et merci d'avoir ce tempérament aussi, de devoir se battre, parce qu'il faut. Sauf que bon, maintenant, avec le recul et au bout de plus de 27-28 ans de traitement, mon corps est un peu fatigué et je commence à cumuler des petits bobos que je pense, comme disent les médecins, c'est qu'on ne meurt plus maintenant du sida, mais nous, les anciens, en fait, on a vieilli plus vite, hein, tout simplement. Mais c'est déjà bien d'avoir vieilli.
Yann, séropositif depuis 1990, en fait, je l'ai appris en 90 au moment où je souhaitais me marier, et traité à partir de 1992. Donc trithérapie qui arrive en 95, donc j'échappe aux 2-3 ans d'espérance de vie qu'on avait. Je ne fais pas de maladie opportuniste réelle entre 90-93. On a appris avec ma future femme que j'étais séropo, elle était séronégative. Elle était enceinte de 5 mois, donc on a eu beaucoup de chance, on est passé à travers ça. Donc ni elle, ni ma fille qui maintenant a 25 ans n'ont été directement concernées par le virus. Et j'ai eu après, quand la science a évolué, rencontrer une femme séropositive qui était donc, elle, traitée, et on a pu avoir un enfant d'une manière tout à fait classique. Moi, je suis plus sensible à l'adolescence, aux jeunes, là, pour l'instant. On fait une action avec le comité de la famille d'aller dans les lycées parler de ce que c'est la vie avec le VIH en 2016. Donc oui, c'est eux que j'ai envie d'alerter en leur disant effectivement la vie est beaucoup plus simple qu'avant. Et leur dire surtout que l'apprendre en 2016, même si on a des traitements, reste un météorite énorme dans sa vie. Et moi, c'est plus facile parce que j'ai 25 ans de séropositivité, donc de vécu. J'ai eu le temps d'avaler la pastille, et surtout de me dire voilà, toutes les personnes qui sont parties, toi tu es là, donc tu dois aussi passer la mémoire. J'ai une infectiologue sur Saint-Antoine, ça fait 22 ans qu'elle me suit, elle a tout connu autant que moi, et elle essaye de passer tout ce savoir aux futurs médecins, c'est-à-dire qu'elle travaille aussi la mémoire.
Je m'appelle Elisabeth, j'arrive il y a 2 ans en France pour un problème de procréation, et les résultats me surprennent. On a dépisté que j'étais séropo. Ça m'a abattu et mon problème de procréation est devenu très compliqué. En fait, même enfin, déjà, même dans ce milieu où je suis, je me rends compte que ceux qui sont porteurs de VIH, ce sont des personnes stigmatisées. Je me disais que c'était un pays où tout était bien, mais ce n'est pas ça en réalité. Même déjà en France, ce n'est pas tout le monde qui accepte de ceux qui ont le VIH. Et parlant de mon pays, si un jour j'y retourne, bon, je sais que ce serait pire là-bas. Déjà, c'est un pays où les gens ont beaucoup des idées préconçues. Mais quand même, déjà, comme je prends mon traitement, je n'irai pas comme une malade, parce qu'apparemment, là, quand vous me voyez, je suis apparemment bien portante.
Vous êtes physiquement en forme, mais c'est dans la tête où on est moins bien?
Non, dans la tête, c'est pas, ça ne va pas. Ça ne va pas dans la tête. C'est une maladie que je maudis jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est une maladie qui bloque tout. Dans la tête, on ne se sent pas bien. On ne me sent pas bien.
Des témoignages différents selon que les porteurs du VIH vivent dans les pays industrialisés ou les pays du Sud. Un paradoxe que vit le docteur Xavier Copin, qui consulte encore à Paris et travaille avec des ONG sur le continent africain.
L'approche n'est pas du tout la même encore en Afrique. En France, surtout dans les grandes villes, finalement, le VIH a été entre guillemets accepté. Et maintenant, on peut en parler facilement lors d'un dîner. C'est encore totalement inenvisageable en Afrique. Il est impensable que quelqu'un vous parle de sa maladie et impensable que ça soit accepté par une société, quel que soit le pays en général. Donc le vécu est encore plus difficile puisque vous risquez encore la stigmatisation, le rejet, le renvoi de votre famille, la perte de vos enfants. Même si vous êtes sous traitement et si vous êtes indétectable, vous devenez un danger. Le pire, c'est je crois le rejet des femmes. C'est-à-dire que dans ces pays, on a l'impression que l'acceptation pour les hommes se fait et pas pour les femmes. J'ai l'exemple d'une femme marocaine qui a été contaminée probablement par son mari qui fréquentait des professionnels du sexe. Donc son mari est séropositif, elle-même devient séropositive et l'apprend d'ailleurs lors de la grossesse de leur troisième enfant. Eh bien, la femme est répudiée, jetée à la rue. Les enfants sont gardés par le mari, paradoxalement, et les enfants sont élevés par la grand-mère.
Une discrimination doublement injuste. Mais les soutiens sont présents, notamment de la part de plus jeunes vivant avec le VIH et très impliqués.
Je m'appelle Antoine Zugmeyer, je suis séropositif depuis 5 ans. J'ai un rapport à mon médicament qui est un peu particulier, c'est-à-dire que comme je fais partie du milieu associatif, donc je connais l'histoire un peu du VIH et l'historique, et en prenant mon traitement tous les jours, je le vis pas comme un fardeau, je le vis plutôt comme quelque chose qui me fait du bien, et du coup en même temps je me dis que derrière ce médicament unique, il y a toute une génération qui a servi de cobaye, et du coup je prends pas un plaisir à prendre mon traitement, mais en tout cas il y a une certaine satisfaction. C'est comme aller voter, enfin j'aime bien faire cette comparaison, j'aime aller voter, même si des fois j'ai pas envie, que ça m'embête parce que j'ai envie de dire que je suis pas content, mais je vais voter parce que je sais qu'il y a des gens qui sont morts pour que je puisse aller voter. Et ben là c'est pareil, je prends mon traitement parce qu'aujourd'hui ça me permet de rester en très bonne santé, de pas contaminer l'autre, et ça c'est grâce à des gens qui n'ont pas pu avoir accès à ça, et qui prenaient 10, 15 médicaments, qui en sont morts, qui ont développé des maladies opportunistes, etc. La liste est longue. Puis on a une chance en France d'avoir accès aux médicaments remboursés à 100% par la sécurité sociale, et puis en prise unique, sans effet secondaire, ou en tout cas très limité.
Et c'est vrai que les traitements existent mais ne guérissent pas, et surtout il est difficile encore de connaître les effets à long terme. Le docteur Xavier Coppin.
Je dirais qu'aujourd'hui, on guérit physiquement, mais on guérit effectivement pas dans la tête, pour reprendre votre expression, puisque cette maladie, on l'a toujours, justement. C'est-à-dire qu'on vit en étant dépendant d'une trithérapie. Et on sait que si on arrête cette trithérapie, la maladie reprend. Donc vous êtes toujours porteur, comme on dit, de cette maladie, puisqu'on ne vous en guérit pas.
Et les quadrithérapies,
Elles vont affiner les choses, finalement. C'est le paradoxe, c'est-à-dire qu'en passant à des quadrithérapies ou à des traitements associant de l'immunothérapie et autres, on va réussir à réduire les effets secondaires et à rendre des traitements encore plus efficaces et encore mieux tolérés. Donc c'est plutôt bien, parce qu'aujourd'hui se posent justement les conséquences à long terme des trithérapies. On sait qu'on a par exemple des troubles des lipides qui peuvent entraîner des conséquences cardiovasculaires. On sait qu'on peut avoir des maladies telles que le diabète qui apparaissent à cause des traitements. Donc aujourd'hui, on se positionne en stratégie à long terme chez des gens qui vont être sous traitement pendant 30-40 ans.
À l'heure où l'on parle des 20 ans de l'arrivée des trithérapies, cela fait aujourd'hui déjà 10 ans que Joël reçoit des quadrithérapies.
J'ai des amis qui sont comme moi, qui font partie des survivants, qui en ont 6, 7 ou 8, et qui ont très peu de comprimés à prendre. J'ai vu qu'il y avait des essais là, qui étaient ouverts, notamment aux personnes séropositives, pour ce qu'on appelle les vacances thérapeutiques. C'est-à-dire que c'est de ne plus prendre les traitements tous les jours, mais que par période, mais de passer par 5 comprimés, et on avance très très vite. Ça aussi, c'est une sacrée avancée par rapport à ce que nous avons pu vivre auparavant, où là, nous avions en fin de compte qu'un seul comprimé et on ne savait même pas s'il allait marcher. Là, maintenant, ces multithérapies en une seule prise, elles fonctionnent, elles donnent des bons résultats. Et quelque part, avec une qualité de vie, même si on n'a pas tous la possibilité, et moi le premier, de vivre comme un nabab, on peut continuer à avancer, on peut continuer à espérer sur le futur. Mais ça, je suis toujours et je resterai toujours partant pour participer à ces essais, parce que pour moi, ils m'ont sauvé la vie une fois. Et je pense que même si je n'espère pas retraverser le sida, comme on a pu le vivre une fois, je me dis toujours que ça peut me retomber sur la tête. Et là, j'aimerais bien que d'autres aient eu la même présence d'esprit pour qu'on ait cette 5, 6, 7, 8e thérapie qui fasse qu'on arrive enfin à pouvoir se débarrasser de ce sacré virus.
Les survivants, une génération entre mort et traitement, qui ont pour certains stoppé net leur projet d'études ou autres, persuadés de mourir dans les mois qui suivaient leur contamination et qui sont encore là aujourd'hui pour en témoigner.
Je dirais quand même qu'aujourd'hui, ce qui me chagrine, c'est qu'avec tout ce que l'on sait sur le VIH, sur les modes de transmission. Il y a quand même chaque année au moins 7000 personnes qui se contaminent encore. Et ça, c'est dramatique, quoi.
Et dans le monde, plus de 2 millions de nouvelles infections par le VIH sont recensées. Selon l'ONU-SIDA, près de 16 millions de personnes vivent sous traitement sur les 37 millions qui vivent avec le VIH. Le VIH, 20 ans après l'arrivée des trithérapies, un reportage de Michel Diaz, une réalisation de Thomas Clé. Grand reportage à retrouver, à réécouter sur RFI.fr.
Thank you.